Bonjour et bienvenue sur les chemins du vendredi qui donne chaque semaine la parole à ceux qui font vivre la philosophie. Profession philosophe, mais peut-on être philosophe sans en faire son métier? Comment travaille un philosophe et quel est son rôle dans la cité? Mon invité aujourd'hui est l'auteur de deux ouvrages dans lesquels il tente de rendre la philosophie accessible à tous. Il n'enseigne pas, mais il a écrit notamment une comédie philosophique dans laquelle, à la suite de Platon, il remet en question la séparation entre le corps et l'esprit. Et sur le corps, il en connaît un rayon, sans mauvais jeu de mots, car son activité principale, son métier, c'est le cyclisme. Il s'est classé 12e au classement général du Tour de France en 2019, et quand on lui demande quel est son secret, voici sa réponse.
S'il y a un camion qui passe, moi j'aime écouter la radio sur le vélo, et on ne se refait pas, j'ai fait des études de philosophie, donc j'écoute très régulièrement les chemins de la philosophie. Sur le vélo, c'est assez original de faire ça, mais c'est pas toujours totalement évident de suivre de bout en bout l'émission, parce que quand on arrive en descente, on n'entend plus rien, et puis aussi, moi quand j'arrive en côte, ou que j'ai un exercice à faire par exemple, l'effort devient plus intense, et c'est moi qui ai un peu plus de mal à me concentrer sur... ce qui est dit, donc, mais c'est quelque chose qui m'accompagne régulièrement sur le vélo.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette.
Bonjour Guillaume Martin.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Alors, c'est pas une blague, on n'a pas fait un montage spécial pour l'émission. C'est votre voix que nous avons entendue. C'était au micro de Thomas Beau, qui à l'époque ne travaillait pas encore pour les chemins de la philosophie, lors d'un documentaire, une histoire particulière, un documentaire diffusé le 6 janvier 2018, et dans lequel nous avions découvert que sur votre vélo, vous écoutiez France Culture et en particulier des émissions de philosophie. Donc, c'est vrai.
Oui, d'où la voix un petit peu essoufflée.
Vous étiez en pleine
faute,
non? Ou en tout cas en plein effort?
En tout cas, pas en grande forme, parce que effectivement, je parlais oui, de manière assez saccadée. Mais c'est sûr que ouais, c'est. Alors maintenant, je le répète assez souvent. J'aime écouter la radio et en particulier les chemins de la philosophie. Effectivement, c'est un peu de l'autopromo, mais ou en tout cas la promotion pour vous. D'ailleurs, c'était amusant puisque il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une intervention dans un collège, dans le collège où j'avais été il y a une dizaine d'années. Et il y a un élève qui m'a posé la question, mais c'est pas un peu dangereux d'écouter la radio en roulant? Et c'est vrai que moi j'en parle un peu partout, que j'écoute la radio et des émissions, et que je podcaste des émissions donc de philosophie en faisant du vélo. Et donc, c'est pas un peu dangereux d'écouter des émissions de philosophie sur le vélo? Et j'étais un peu embêté pour répondre parce que j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Donc oui, la philosophie peut peut-être être dangereuse. Donc.
Si vous écoutez des émissions en pédalant, c'est que ça vous aide. C'est le fait de penser à autre chose en étant en train de pédaler, c'est le fait de réfléchir, c'est la radio, c'est la philosophie. Quel rôle est-ce que ça joue pour vous?
Je dirais pas que ça m'aide. Je pense que il y a plein d'aspects et plein de raisons pour lesquelles j'écoute la radio en faisant du vélo, mais la raison la plus simple, et elle est vraiment toute simple, c'est simplement pour passer le temps, pour me distraire. Alors j'ai beaucoup de collègues qui écoutent de la musique. Moi, c'est un peu ma particularité. J'écoute notamment des émissions de philosophie, et les chemins de la philosophie. Mais est-ce que ça m'aide? Oui, c'est parce que je suis comme ça. C'est ce vers quoi je suis attiré. Mais on peut élargir la question. Est-ce que la philosophie m'aide à faire du vélo? Ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent. C'est pour ça que
j'imagine.
Je la pose d'emblée. Et en fait, non. Enfin,
non,
ma réponse est non. Voilà, c'est avant tout, désolé de le dire, un passe-temps pour moi quand même.
Bah, la radio,
mais un passe-temps intéressant.
Est de toute façon une manière d'accompagner les gens dans leurs activités. On écoute la radio pour faire passer le temps aussi, évidemment.
Oui, oui. Et après, je rebondis par rapport à l'extrait que vous venez de passer, et la chanson à bicyclette d'Yves Montand. outre le clin d'œil avec cette émission, puisque les premiers vers, c'est quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, c'est aussi parce que je pense que le vélo et la radio ont ceci de commun qu'ils nourrissent l'imaginaire des gens. Il y a une vraie proximité entre ces deux univers, le cyclisme et la radio, qui sont en apparence quand même un peu éloignés. Mais le Tour de la France, notamment, il y a quelques décennies, dans les années 50-60, ne se suivait quasiment que à la radio. Et quand on parle aux anciens, qui sont attachés, quand on parle de cyclisme aux anciens, ils parlent, pas les anciens grecs, hein, les anciens, les personnes âgées, ils vous parlent tout de suite de ces souvenirs, voilà, à la ferme, d'arrêter les travaux dans les champs, par exemple, pour aller écouter la radio et suivre les aventures d'Anquetil et de Poulidor. Donc il y a une vraie proximité que cette chanson d'Yves Montand, c'est peut-être ce romantisme que la radio et le cyclisme peuvent avoir en commun, que cette chanson de Montand peut symboliser.
Ces questions du lien entre le cyclisme et la philosophie, vous les abordez aussi directement dans un livre qui s'appelle Socrate à vélo, le Tour de France des philosophes, publié aux éditions Grasset, de manière un peu différente et sur un mode plus dramatique, au sens théâtral du terme. C'est une comédie philosophique qui s'appelle Platon vs Platoche, qu'on trouve aux éditions L'Harmattan. Ce sont deux ouvrages que vous avez publiés récemment. On va essayer de remonter le fil de votre rencontre avec la philosophie, puisque vous avez aussi fait des études de philosophie, Guillaume Martin. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie?
Alors la toute première, je dirais que ça doit remonter au collège, enfin en tout cas la première rencontre avec un philosophe, ça doit remonter au collège. J'avais participé à un concours de dictée départementale, et moi je viens de Normandie, du département de l'Orne, et donc c'était un texte du philosophe Alain, qui est de l'Orne, qui a, je crois, été professeur, enfin, ou a fait ses études à Alençon. Donc, et donc à la suite de ça, mon père m'avait mis entre les mains les propos sur le bonheur d'Alain, donc. Et j'avais parcouru ce livre, et ça m'avait, alors j'en ai pas un grand souvenir, mais ça m'avait marqué dans la mesure où c'était assez, c'était concret, ça me semblait concret. Et ça allait un peu à l'encontre de l'image dont on pouvait de la manière dont je pouvais me représenter la philosophie à cet âge-là, donc à 13 ans. À cet âge-là, on pense que la philosophie, voilà, c'est très abstrait, très imposant surtout. On a peur de s'y frotter. Et puis là, je me suis rendu compte que non, Alain, ça c'est une chose dont je me rappelle encore, il discutait de la manière d'éructer, et justement plutôt du fait de ne pas éructer, de réussir à se contenir. Ça m'avait surpris qu'on puisse parler de... Enfin, que ça puisse être de la philosophie. Et puis ensuite, quelques années après, je pense en seconde ou première, il y a eu là aussi le Ecce Homo de Nietzsche m'est tombé entre les mains, je sais plus trop comment. Et c'était un peu dans la même veine. Il y avait des choses assez, concrètes dans Ecce Homo sur justement le régime idéal. Donc là, ça parlait aux jeunes sportifs que j'étais, la météo idéale, etc. Donc voilà, ma première confrontation à la philosophie s'est faite au travers de livres parlant vraiment de choses du quotidien.
Est-ce que vous avez déjà entendu la voix d'Alain ?
Je crois pas, je pense qu'on en a parlé, on m'a dit qu'elle était imposante elle aussi.
Bien, la voici, c'était le 30 décembre 1948, une archive de la Tribune de Paris.
Le doute est une chose qui n'est pas familière. Enfin, le doute est une chose qui est rare. Le doute est une chose qui, de plus, est considérée, je ne sais pourquoi, si on sait bien pourquoi, considérée comme dangereuse. Il ne faut pas douter. Et moi, je réponds, il faut douter. Il faut douter, c'est-à-dire aller jusqu'au bout du doute, c'est-à-dire détruire cette espèce de croyance, car c'est le mot, de croyance que nous avons, qu'il faut détruire. Nous ne cessons pas de détruire des croyances. Comme d'autres croient en Dieu, il faut croire au doute.
La voix d'Alain, de son vrai nom Émile Chartier, sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Alain qui donc vous a initié à la réflexion philosophique, hein, Guillaume Martin, c'est ce que vous disiez. Il exprime ici la nécessité pour lui de croire au doute. Ça vous parle, ça, la croyance dans le doute?
C'est sûr. Je pense que c'est sans doute une des manières de définir la philosophie comme le fait d'aller contre nos certitudes, donc de douter. Et là, il y a une vraie référence évidemment à Descartes, mais je pense que on peut élargir ça à presque l'ensemble de la philosophie comme étant l'art du doute. Et alors là, on peut extrapoler aussi à ce qui me concerne plus directement aujourd'hui, le sport, où on est aussi sans cesse évidemment confronté au doute, et où l'importance est évidemment de le dépasser, mais sans le nier non plus. Il faut accepter de parfois avoir des moments difficiles, des moments où on sait plus trop où on va, où on a des blessures, des moments de méforme.
Mais on doute de soi dans le sport uniquement, ou on peut douter d'autre chose? On ne doute pas de l'existence du monde? On ne doute pas de la vérité, si? Enfin, c'est une vraie question que je vous pose.
Non, dans le sport, effectivement, on est énormément tourné vers soi. Mais est-ce que c'est un doute philosophique? Ça peut l'être tout de même. Enfin, moi, je pense que l'individu, le soi, est quand même au centre de tout. Et donc, en ce sens-là, si le sport est centré sur le soi, étudier ce soi et étudier ce soi qui doute, ça peut avoir une vraie pertinence philosophique. Mmh. Et c'est pour ça que le sport, à mon avis, peut avoir un effet de révélateur sur des choses qui constituent l'humain de manière générale.
Après le bac, vous choisissez de faire des études de philosophie. Vous allez en prépa, puis vous vous inscrivez à la fac pour suivre des études de philosophie. Vous êtes déjà cycliste à ce moment-là et vous décidez de ne pas choisir. Comment est-ce que les deux se rencontrent, en fait?
Eh bien, justement, j'ai toujours fait les choses par goût et sans vouloir faire de choix ou m'imposer des contraintes. Au lycée, j'ai pu bénéficier, il y a quand même des choses qui existent, hein, pour pouvoir concilier les deux. Au lycée, j'ai appartenu à une section sport-études, donc où le cyclisme était une vraie matière. Et puis ensuite, j'avais aussi de bons résultats, donc ça rendait les choses plus faciles. Et donc j'ai effectivement enchaîné après mon bac avec une classe prépa littéraire pendant un an où j'ai mêlé les deux de front. Ça demandait un peu d'organisation, mais sur le moment, voilà, comme ça me plaisait. Et en l'occurrence, à cette époque, c'était surtout le cyclisme qui me plaisait plus que la classe prépa. Voilà, ça se passait bien. Il n'y a pas eu j'ai pas eu de difficulté à le mener. Alors maintenant, effectivement, avec le recul, je me demande un peu comment. Enfin, j'ai l'impression aujourd'hui où je ne fais quasiment que du cyclisme. Enfin, mon activité littéraire ou philosophique et vient après, en tout cas. Je me demande comment à l'époque je faisais pour faire les deux aussi sérieusement, puisqu'à ce moment-là j'avais 18 ans, mais j'avais déjà quasiment le rythme de vie d'un sportif pro. Enfin, c'était déjà très important, conséquent comme entraînement notamment. Donc avec le recul, ouais, je me demande comment j'avais fait, mais parce que voilà, peut-être avec la fougue de la jeunesse ou je sais pas.
Bah, vous n'êtes pas très vieux, Guillaume.
Je ne suis pas très vieux, mais
vous choisissez de travailler aussi sur votre activité, c'est-à-dire que quand vous décidez de faire un mémoire de maîtrise, vous choisissez un thème qui est en lien avec le sport. Vous avez du mal, je crois, à trouver un directeur de recherche qui accepte de diriger un mémoire sur ce thème. Et puis vous rencontrez Jean-François Balaudet, qui est aujourd'hui président de l'Université Paris-Nanterre, et qui vous a laissé un message.
Cette année, il y a quand même eu un épisode assez formidable, je trouve. C'est sa victoire au mois d'avril dernier dans le Tour de Sicile, où il a gagné la dernière étape, hein, qui arrivait au sommet de l'Etna, qui est le volcan qui est le plus philosophique du monde, puisque c'est qui est associé à la figure d'Empédocle d'Agrigente et de l'histoire symbolique de la disparition d'Empédocle dans l'Etna, mais apparu comme la signature philosophique la plus formidable que l'on pouvait rêver lorsqu'on était Guillaume Martin, cycliste professionnel.
Votre mémoire de maîtrise s'appelait « Le sport moderne, une mise en application de la philosophie nietzschéenne ». Est-ce que vous avez dû convaincre Jean-François Balaudet de diriger ce mémoire, Guillaume Martin?
Non, j'ai pas dû le convaincre bien longtemps, puisque lui-même est passionné de cyclisme, donc philosophe de formation, donc également président de l'Université Paris-Nanterre. Il avait écrit sur le sport d'un point de vue philosophique, donc non, c'était vraiment une belle rencontre. Et par le biais de cette émission, je tiens une nouvelle fois à le remercier d'avoir pu suivre et diriger mon travail de mémoire et de l'avoir accepté, parce qu'effectivement, ça n'a pas été aussi simple que ça. Au cours de mon parcours, j'ai pu parfois rencontré, non pas du rejet de la part du corps enseignant, mais peut-être plus de l'incompréhension. Et c'était déjà le cas un peu en classe préparatoire, par exemple, où effectivement j'avais l'impression que c'est un milieu assez particulier, peut-être un peu fermé. Et j'avais l'impression que oui, on comprenait pas tellement quel était justement mon rythme de vie et ce que ça impliquait. On voyait ça un peu comme juste un loisir, un passe-temps, mais on se rendait pas compte du sérieux et de l'implication que ça demandait. C'est pour ça qu'ensuite j'ai basculé vers l'université, et puis voilà, la philosophie vraiment me plaisait. Je savais que c'était ça que je voulais faire, justement. C'était encore une fois dirigé par mon goût, et donc j'ai fait ma licence de philosophie, puis donc mon master cette fois à l'université Paris-Nanterre, où là j'ai pu à nouveau disposer d'un dispositif. Je faisais cette formation à distance, et alors là il a fallu trouver effectivement quelqu'un pour diriger le mémoire que je devais écrire je devais écrire un mémoire en première année et un autre en deuxième année. Donc je suis arrivé là sans connaître les professeurs. Donc la première année, j'ai été vers une personne qui, en lui parlant justement de cette volonté d'écrire un mémoire sur le sport et la philosophie de manière générale, et j'ai senti que ça, là aussi, c'était vu un peu comme exotique, c'était le mot. Et pas tellement apprécié. Donc, on m'a encouragé à faire d'abord un travail sur. Je voulais travailler sur Nietzsche aussi, donc sur Nietzsche et le corps, ce que j'ai fait. Et puis la deuxième année, c'était toujours compliqué, donc avec cette personne, de suivre ce travail. Donc, c'est là que j'ai réussi à rentrer en contact avec Monsieur Balaudet, qui donc a accepté de suivre ce mémoire. Et donc ça s'est fait très facilement, puisque voilà, j'ai. Du fait de son intérêt aussi à lui. Et pour revenir sur l'anecdote qu'il évoquait de ma victoire cette année au sommet de l'Etna sur le Tour de Sicile.
Le plus philosophique des volcans, disait-il.
Voilà, c'est ça. L'anecdote peut être enrichie, puisque justement, dans le livre Socrate à vélo, et c'est là où c'est vraiment drôle, j'avais écrit cette victoire, un chapitre qui se passait sur les pentes de l'Etna, où il y avait un clin d'œil à cette disparition d'Empédocle. Alors cette fois, c'était Socrate que je présentais comme allant se suicider en se jetant du sommet de l'Etna, et laissant juste une... Alors, dans l'histoire d'Empédocle, il laisse une sandale sur le bord du volcan, et c'est à partir de là qu'on peut dire qu'il s'est suicidé. Là, c'était une chaussure, puisque Socrate, dans l'histoire, est un cycliste, et il laisse une chaussure de vélo, et donc voilà, c'est un élément de l'histoire. Donc il y a une double anecdote.
Et alors, dans quelle mesure est-ce que le sport moderne serait une mise en application de la philosophie nietzschéenne ?
Ah, alors ça c'est tout.
Alors c'est pas un résumé de votre mémoire, mais expliquez-nous quand même, parce qu'on a envie de savoir.
Mon mémoire en 180 secondes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Un peu plus, mais...
En fait, je suis parti vraiment de mon expérience de sportif de haut niveau, et je me suis rendu compte que ça collait pas forcément avec le discours, l'idéologie qui portait le sport moderne. Cette idéologie héritée de Pierre de Coubertin. Voilà, l'idéologie olympique, en gros. Et pour résumer un peu, j'avais l'impression que oui, vous voyez, qu'il y a une sorte d'hypocrisie dans le sport moderne, qui a un discours affiché et qui n'est pas du tout en cohérence avec ce qui anime les sportifs.
C'est-à-dire l'important, c'est de participer, voilà, Coubertin, alors qu'en fait l'important, c'est de gagner, c'est ça ?
C'est comme ça que je l'explique généralement, oui. Il y a cette fameuse phrase, l'important c'est de participer. Et oui, c'est pas ça que moi, je, en tant que sportif, c'est pas ça que je vois chez mes collègues, c'est pas ça que je vis. Pour moi, effectivement, l'important, c'est de gagner. Je suis vraiment mu par cet instinct de compétition. C'est ça qui m'a poussé à faire du sport. Et depuis tout petit, j'ai ça en moi. Et donc, en fait, en lisant Nietzsche au cours de mon parcours scolaire et universitaire, eh bien, je trouvais des choses qui collaient plus à mon vécu de sportif que ce que pouvait dire de Coubertin ou l'idéologie olympique.
Et par exemple,
dans cette fameuse, pour toujours sur cette question de l'importance de participer, dans Ainsi parlait Zarathoustra, il y a une phrase Zarathoustra: je ne vous conseille pas la paix mais la victoire. Donc là, on est clairement à l'opposé.
C'est-à-dire que Nietzsche osait dire des choses que personne n'assumait au moment où vous avez commencé à être cycliste professionnel, c'est ça ? Vous avez trouvé dans Nietzsche le fait de pouvoir dire que la victoire est une bonne chose, c'est ça ?
Oui, c'est ça, des choses qui... Enfin, dont, J'ai l'impression qu'on se cache. Enfin, il y a ces fameux discours des sportifs après leur victoire, ou par exemple, un rugbyman quand il vient d'être élu homme du match. Après, tout de suite, il est interrogé au micro. Il y a toujours une question sur qui, est-ce que vous êtes content de votre performance personnelle ? Et du tac au tac, mais c'est systématique. Il dit oui, mais peu importe, l'important c'est notre performance collective, c'est voilà la victoire collective. On met toujours le collectif en avant. Mais pourquoi on aurait honte de l'individu ? Enfin,
c'est voilà, pour ça que c'est, vous faites du vélo d'ailleurs, non ? Parce que le vélo, vous êtes tout seul.
Alors là, c'est là où c'est un peu compliqué, parce que le vélo, on dit que c'est un sport individuel pratiqué en équipe. En réalité, on se rend compte que la part de collectif est extrêmement importante. Mais ce qui est intéressant dans le vélo, c'est justement un peu la tension entre l'individuel et le collectif. Parce que, effectivement, il n'y en a qu'un qui gagne, mais il ne peut pas gagner sans l'équipe. Donc là, le cas du vélo est très compliqué par rapport à ça. Mais oui, il y a tout un ensemble de mythes autour du sport aujourd'hui. Voilà, le mythe du collectif, le mythe de l'importance et de participer, le mythe du mental aussi. On dit que peu importe la douleur, tout est dans la tête, c'est dans la tête. Mais là aussi, c'est pas ce que je vis quand je suis à fond dans un col. J'ai beau me dire, non, la douleur n'est rien, c'est dans la tête. T'as deux jambes, deux bras, une phrase qu'on entend souvent aussi, comme tous les autres. Non, je peux pas aller plus vite. Je suis à ma limite physiologique et c'est ma limite.
Ça, c'est vraiment passionnant dans vos écrits, parce qu'on sent bien votre volonté de dépasser le dualisme qui a quand même irrigué toute l'histoire de la philosophie pendant bien longtemps, à savoir qu'on, d'un côté se trouverait le corps et de l'autre l'esprit ou l'âme, en tout cas d'un côté le matériel, de l'autre l'immatériel, d'un côté le sensible, de l'autre l'intelligible. Et vous essayez de montrer dans votre pratique et dans vos écrits que finalement les deux ne sont pas aussi distincts et qu'il y a quand même des circulations qui s'opèrent sans cesse. Et en cela, c'est déjà une position philosophique, celle que vous tenez.
Oui, c'est sûr, mais c'est vraiment quelque chose que j'expérimente, en fait. C'est pas quelque chose que j'ai découvert rationnellement, c'est quelque chose que je vis au quotidien, et c'est le corps qui m'impose des choses et qui me dirige. Et en cela, justement, Nietzsche me parlait, puisque c'est lui qui parle du corps et de sa grande raison, qui dit que le corps pense. Donc le corps est vraiment premier chez Nietzsche. Et ça, c'est ce que moi, j'expérimente au quotidien. Et donc, tout le propos de ce mémoire, c'était de se demander si on pouvait pas repenser le sport de manière un peu plus authentique. Et alors, pour ça, je suis aussi reparti enfin, j'ai un peu refait toute une histoire du sport, en m'interrogeant aussi sur ce qu'était le sport dans l'Antiquité, dans la Grèce antique, au début des Jeux Olympiques. Est-ce que c'était le même sport que celui qu'on connaît aujourd'hui? Et alors là, j'ai travaillé un certain nombre de, j'ai regardé d'un point de vue historique ce qu'était le sport à l'époque. J'ai travaillé un certain nombre de notions. Par exemple, une notion importante chez les Grecs, c'était le kalos kagatos, l'homme bel et bon. Et donc, ça voulait dire que la beauté, donc l'esthétique, le physique, on pourrait-on dire, était le reflet, était vraiment lié au bon, donc au moral, au mental, on peut extrapoler. Et ça, cette liaison, ce lien, vraiment, presque cette fusion, elle est symbolisée par l'expression même, kalos kagatos. En fait, kalos, c'est beau, et c'est kalos kai agatos, belle et bon. Et en fait, le mot est kai est fusionné avec l'adjectif bon ensuite, kagatos. Donc il y a vraiment une fusion. Mmh. Et ensuite, j'ai l'impression, en déroulant le fil de cette histoire, que cette fusion, c'est qu'il y a une séparation en deux des deux choses. Chez les Latins, c'est déjà plus la même expression, c'est mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Donc il y a un contenu et un contenant. Et puis ensuite, là, avec le développement du christianisme, avec Descartes, effectivement, il y a une séparation de plus en plus importante entre le corps et l'esprit, et qui m'étonne, puisque c'est pas ce que je vis. Voilà.
Well, right now we're going back to the Olympic Stadium for the closing minutes of the philosophy final, and I understand that there's still no score.
Well, there may be no score, but there's certainly no lack of excitement here. As you can see, Nietzsche has just been booked for arguing with the referee. He accused Confucius of having no free will, and Confucius, he say, name go in book. And this is Nietzsche's third booking in four games. And who's that? It's Karl Marx. Karl Marx is warming up. It looks as though there's going to be a substitution on the German side. Obviously, manager Martin Luther has decided on all-out attack, as indeed he must with only 2 minutes of the match to go. But the big question is, who is he going to replace? Who's going to come off? It could be Jaspers, Hegel, or Schopenhauer. But it's Wittgenstein, Wittgenstein, who saw his auntie only last week. And here's Marx. Let's see if he can put some life into this German attack. Evidently not. What a shame. Well now, with just over a minute left, replay on Tuesday looks absolutely vital. And there's Archimedes. And I think he's had an idea.
Eureka!
Archimedes out to Socrates. Socrates back to Archimedes. Archimedes out to Heraclitus. He beats Hegel. Heraclitus, a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates, and he's in. Socrates has scored.
Et oui, le match de foot des philosophes, c'est les Monty Python hein, qui le proposaient en 72, Monty Python's Flying Circus. Une blague que l'on recite souvent entre philosophes, qu'on diffuse souvent aussi dans cette émission, parce qu'effectivement, il est vraiment cocasse de voir que tous les philosophes de l'histoire de la philosophie se disputent un ballon et essayent de se battre, essayent de marquer un but. On retrouve l'esprit de compétition dont vous parliez, Guillaume Martin. Et c'est cette série-là, cet épisode de la série qui vous a inspiré pour écrire votre livre, Socrate à vélo. On voit aussi les philosophes qui se préparent à monter en selle et à essayer de remporter peut-être le Grand Prix. Ça s'est passé comme ça, vraiment?
Oui, c'était vraiment une des idées de base de mon livre. Là, c'était le match de football des philosophes, des Monty Python. Et pour moi, c'était le Tour de France des philosophes. Et ce qui m'amuse vraiment dans ce sketch des Monty Python, c'est... parce que ça résonne aussi avec ce que j'ai pu percevoir dans mon parcours, c'est le fait qu'on voit en fait qu'on voit le match se dérouler, se lancer, et puis en fait les philosophes sont là et ne font rien. Ils sont là en train de marcher, de réfléchir. Il y a le ballon au milieu, on le voit parfois, mais il se passe rien. Donc c'est une vraie satire de ces philosophes qui sont dans les nuées. Déconnectés de la réalité, de la vie pratique, et voilà, qui perdent tout bon sens. Et alors à la fin, il y a quand même effectivement Archimède qui dit Eureka et qui va marquer, grande trouvaille philosophique. Mais ça, je pense que l'homme du commun, comme on dit, l'aurait trouvé beaucoup plus vite. Donc c'est aussi une chose qui m'intéresse vraiment, c'est la relation de la philosophie au quotidien, à la vie pratique. Et une chose contre laquelle je me bats, c'est le fait d'être déconnecté. Enfin, au cours de mon parcours, j'ai trop souvent été confronté à des universitaires, par exemple, ou des professeurs qui avaient des discours et extrêmement savants, évidemment, avec un vocabulaire formidablement riche, mais finalement qui parlait pas à grand monde et qui ne traitait pas de vrais sujets. Enfin, j'avais un peu l'impression que c'était un vase clos. C'est une critique qui est souvent adressée aux philosophes et aux universitaires. Mais
c'est quoi un vrai sujet?
C'est des choses qui parlent à tout le monde, je pense. Je pense qu'on est tous, on peut tous être philosophes en une certaine façon, puisqu'on se pose tous des questions. Et notamment quand on est enfant, enfin, l'enfant est un vrai philosophe, en ce sens que, voilà, il se pose des questions sur ce qu'est la vie. Et j'ai l'impression, et je pense que les gens, quand ils font de la philosophie, c'est qu'ils veulent développer ce point-là, mais peut-être au cours de leur parcours, ils oublient un peu ce pourquoi ils sont venus à la philosophie et ils restent dans des petits cercles et sans traiter vraiment de choses fondamentales, enfin ouais, le mot métaphysique. Enfin, en tout cas, pour moi, la philosophie est venue à la suite de questions métaphysiques, à mon avis.
Et la philosophie était une manière de formuler ces questions ou d'apporter des réponses?
La philosophie devait être l'acte, enfin l'interrogation en elle-même, et puis la tentative quand même pour répondre à ces interrogations.
Est-ce que vous avez déjà trouvé des réponses dans un livre de philosophie?
Oui, j'ai pu. Après, c'est quelque chose que... C'est pas des réponses, c'est pas un livre de recettes. Donc c'est pas une formule mathématique non plus. Après, c'est quelque chose toujours qu'on doit s'approprier et expérimenter. Donc, là aussi, on en revient à l'individu. Il y a le livre qui est là pour tout le monde. Et après, c'est à chaque individu de se l'approprier et de faire en sorte que ça résonne avec son cheminement à soi. Donc voilà, un livre de Nietzsche me parle pas comme il pourra parler à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, si ces livres-là, si les livres de Nietzsche, de Platon, de Descartes, etc., restent, et c'est qu'ils parlent à beaucoup de monde. Mais à mon avis, ils parlent à beaucoup de monde de manière toujours différente.
Mais vous, vous avez aussi envie de parler du monde, puisque vous avez quand même choisi de publier. Non seulement vous avez étudié la philosophie tout en étant cycliste et cycliste professionnel, mais vous avez choisi d'écrire un livre et puis un second. C'est parce que vous voulez parler à plus de monde possible ou pourquoi ?
Je sais pas. C'est peut-être là aussi, comme le fait d'écouter une émission de philosophie, c'est peut-être simplement une distraction, un divertissement, et pourquoi pas. Non, je pense que la philosophie, vraiment, en un sens profond, là où la philosophie m'intéresse, c'est comme expérimentation, et c'est pour moi, et c'est quelque chose qui est pas, que je peux pas mettre en mots, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu de mal à en parler. C'est quelque chose qui, ouais, que je vis avant de pouvoir l'écrire. J'ai du mal à. Je pense que ce qui est vraiment fondamental en philosophie, ce qui est métaphysique, est un peu indicible. Donc on peut l'évoquer, on peut tourner autour, mais.
Donc c'est les émotions. C'est quoi ça, si c'est indicible, c'est ce que vous qualifiez de philosophie qui ne relève pas forcément du langage. Alors où est-ce que ça se passe?
Mais c'est vraiment sur la question de... c'est Camus qui disait que la seule vraie question philosophique, c'est celle du suicide. Donc c'est vraiment la question du sens de la vie, la question de... voilà, à quoi bon? Pourquoi y a-t-il ce monde? Pourquoi y a-t-il ce studio? Y a-t-il... est-ce que, hors de cette salle dans laquelle je me trouve... il y a quelque chose qui existe. On pourrait tout à fait penser que moi, c'était justement une interrogation que j'avais quand j'étais tout petit. J'avais l'impression, enfin, je m'interrogeais en tout cas sur l'existence du monde au-delà de mon champ de vision, par exemple. C'est un peu The Truman Show aussi avec Jim Carrey, c'est un peu le même ordre de choses. Et tout ça, c'est vraiment des expérimentations. Et c'est compliqué d'en parler, c'est surtout impossible d'y répondre, en fait.
Est-ce qu'à l'inverse, le choix de devenir cycliste, c'était pas une manière de contenir ces questions?
Alors, par rapport à tout ça, moi, par rapport à toutes ces questions, elles aboutissent à une chose, selon moi, c'est la question du sens de la vie. La réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sens. Enfin, c'est l'absurde, et là, il y a beaucoup de philosophes avant moi, et beaucoup plus de gens qui ne sont pas philosophes quand on fait le constat. Et alors par rapport à ça, effectivement, il y a plusieurs options. Soit le suicide, c'est pas une option que j'envisage, parce que aussi ce serait peut-être vouloir donner un sens et ça n'aurait pas plus de sens. L'autre option, celle que j'ai trouvée, c'est de donner soi-même un sens, de choisir son sens. Et alors là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être effectivement écrire des livres, mais non, sans y accorder trop d'importance, ou en tout cas... l'important du livre, c'est l'importance que je lui donne. Et ça peut être aussi faire du sport, du cyclisme. C'est quelque chose d'assez trivial en soi. Mais bon, à partir du moment où rien n'a de sens, tout est aussi trivial, et un traité de philosophie l'est tout autant qu'une course cycliste.
Oui, sauf que vous voulez gagner. Ça veut dire que pour quelqu'un qui...
Oui, parce qu'après, je crée du sens. Après, ça ne veut pas dire que je ne fais pas les choses avec grand sérieux. Au contraire, pour consolider la chose, il faut que je la fasse... de la manière la plus cohérente et avec le plus d'implication possible, puisque dans ce cas-là, il y aura de plus en plus de sens. Et donc voilà, il y a une vraie implication, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun fondement. C'est juste reconnaître que les fondements, c'est moi qui les mets. Voilà, pour expliquer ça, ces choses-là qui ne sont pas forcément faciles à expliquer, je peut partir, et en tout cas d'un philosophe qui m'a aussi beaucoup marqué, qui est Pascal, quand il parle du peuple, des semi-habiles et des habiles. Le peuple est ceux qui acceptent les valeurs, les normes de la société sans les remettre en question. Il les appelle les ignorants. Il n'y a pas d'interrogation. Ensuite, il y a les semi-habiles, qui voit le fait que tout ça est sans fondement, qu'il n'y a pas de sens. Et alors
Et qui s'en indigne.
Ils s'en indignent, ils se battent contre ça. C'est un peu le lion aussi de Nietzsche. Les ignorants sont les chameaux. Et puis ensuite, il y a Chamou se transforme en lion et donc voilà, ils remettent tout ça en question, ils envoient tout ça valser. Mais ça n'a pas plus de sens et finalement il y a une troisième évolution, c'est les habiles chez Nietzsche, l'enfant qui décide en fait de remettre le voile, de en fait d'accepter les normes, les valeurs, mais avec une pensée de par derrière, comme dit Pascal, voilà, sans être dupe, en étant conscient que ces valeurs sont arbitraires, et puis peut-être en voilà en se créant ses propres valeurs. C'est ce que fait l'enfant chez Nietzsche.
Et vous êtes un habile.
Je suis très prétentieux de le dire.
Vous aspireriez à l'être.
J'aspirerais, voilà, je préfère le dire comme ça.
Alors dans ce cas, on peut se demander, mais alors pourquoi la philosophie et pas, par exemple, la chanson ?
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste. Un peu trop idéaliste qui répète sur tous les tons à quoi bon.
Quand vous n'écoutez pas des podcasts de France Culture ou vous ne lisez pas de la philosophie, vous n'êtes pas en train de faire du vélo, vous écoutez cette chanson, non, Guillaume Martin, c'est vous qui l'avez suggéré, l'aquaboniste de Jane Birkin avec des paroles de Serge Gainsbourg.
Oui, déjà parce que j'aime bien Serge Gainsbourg et puis cette chanson un peu fait écho à ce que je viens de dire sur voilà, à quoi bon l'absurdité de la vie, et je pense que Serge Gainsbourg l'expérimentait et peut-être que la chanson, l'amour aussi, puisque c'est la conclusion de cette chanson, peuvent être les des manières de créer du sens. C'est peut-être celle qu'il a trouvée, mais on sent qu'évidemment chez Gainsbourg il y a cette mélancolie et il y a cette il est pas dupe non plus.
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste. Qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres ce sont tous des cons.
Votre existence vous plaît?
Terriblement.
Vous êtes heureuse?
Autant qu'on peut l'être.
Vous aimez votre métier?
Oui, j'adore mon métier.
Et si je vous prouvais que vous ignorez ce qu'est le bonheur?
Non, c'est maintenant.
Non, vous allez me dire ce qui vous rend si heureuse dans la vie exactement.
Le soleil, quand je me baigne, c'est mon bonheur à moi. Un gâteau, un bon vase, c'est mon bonheur à moi. Si je vous touche et que ça me fasse plaisir, c'est encore un bonheur à moi.
Mais ce n'est que de la sensualité, ce n'est pas le véritable bonheur. Vous vivez comme les Grecs du Bas-Empire, comme les philosophes qui ont provoqué la perte de la Grèce. Ça saute aux yeux.
Mon œil.
Comment vous expliquer? Il fut une époque, un temps où votre pays était le plus grand qui soit au monde.
Il l'est toujours.
À cet instant de votre gloire, vous aviez trois grands hommes, des philosophes.
Opa.
Socrate, Platon et Aristote.
Je vous ai déjà dit que je détestais ce type-là.
Tous furent véritablement des génies. Ils ne vécurent que pour répondre à la question « Qu'est-ce que le bonheur ?»
Ah oui, et quelles réponses ont-ils donné?
Ils ont dit que le vrai bonheur ne venait qu'avec les joies de l'esprit, et que nous ne devions aspirer qu'aux satisfactions de l'intelligence.
Ils ont dit ça.
Qu'est-ce que nous venons d'écouter, Guillaume Martin?
Un extrait d'un film de 1960, je crois, de Jules Dassin, qui s'appelle « Jamais le dimanche », et qui, dont le ton me plaît énormément, puisque, et le sujet aussi, puisque ça fait écho à certains de mes thèmes, on va dire. C'est l'histoire d'un un intellectuel américain joué par Jules Dassin qui idéalise un peu la Grèce et va en voyage en Grèce et rencontre cette femme qu'on a entendue, Ilia,
jouée... Lui s'appelle Homer. Hein.
Lui s'appelle Homer, évidemment, joué par Mélina Mercouri, et qui est une prostituée qui reçoit des clients toute la semaine, sauf le dimanche, d'où le titre, mais qui a une vie très très libre, et qui est une prostituée indépendante, et qui fait ça vraiment par choix. Et sauf que lui, ce personnage, Homer, ça réprouve totalement ses idéaux philosophiques, ses principes, et il se met en tête d'éduquer cette femme, qui en vérité n'a sans doute pas du tout besoin de l'être, et de l'initier à la philosophie. Et donc pour moi, c'est un peu le symbole de la déconnexion entre... justement ces philosophes qui sont à l'écart de la réalité et puis la sagesse des basses gens, comme on dit, des gens du quotidien, peut-être de l'opposition aussi entre Homer qui serait un semi-habile et puis cette Ilia qui elle serait une habile qui aurait elle est pas dupe non plus, elle fait ça parce que simplement son choix. Et donc, c'est aussi l'opposition entre la vie dans la réflexion et puis la vie dans l'action. Et tout ça, c'est des choses auxquelles aussi je suis confronté au quotidien, de par mon parcours et le milieu dans lequel j'exerce et qui m'intéresse. Et aussi, c'est vraiment cette question puisque l'une des questions centrales du film, c'est la question du bonheur, la question de l'imbécile heureux. Est-ce que, à quoi bon, là encore, faire de la philosophie si on voit que... ça nous apporte en fait que du malheur, que des interrogations existentielles qui ne mènent à rien si ce n'est de la tristesse. Pourquoi ne pas rester dans une douce inconscience ?
Et pourquoi en effet ?
Pourquoi ? Parce que je pense que... Alors parfois on n'a pas le choix, justement quand on a ouvert les yeux une première fois, quand on est semi-habile, on ne peut pas revenir dans l'état d'ignorance. Et puis peut-être que le fait, en tout cas c'est certain qu'il ne faut pas rester au stade de simplement la remise en question des valeurs, il faut les accepter ensuite, mais je pense que peut-être qu'après on peut accéder à un autre type de bonheur, c'est ça qu'il faut espérer, mais un bonheur qu'on se crée soi-même plutôt qu'un bonheur qu'on subit, c'est peut-être pas le même degré de... Peut-être que d'un côté, il y aurait juste une certaine torpeur qu'on pourrait croire comme étant du bonheur, mais qui serait incomparable. Enfin, c'est toute l'histoire du mythe de la caverne, en fait. Hein, ces prisonniers qui, finalement, vivent pas si mal au fond de leur caverne, enchaînés. Mais ensuite, ça leur fait mal quand ils commencent à gravir la montagne. Mais c'est pour... conquérir un bien plus haut, c'est ce que dit Platon. Donc, c'est peut-être le cheminement quand même de la philosophie dans cet
ensemble. Sauf qu'ils veulent tous retourner dans la caverne, parce que c'est beaucoup trop douloureux de vivre à la lumière du soleil.
Oui, mais ils y retournent après avoir quand même vu le soleil. Ils y retournent éclairés.
Alors, dans votre livre Socrate à vélo, vous écrivez ceci: sans toujours l'assumer, les gens considèrent généralement les sportifs comme des personnes un peu stupides. Ces athlètes font rêver, ils font rayonner leur pays ou leur club, alors... leur balourdise est pardonnée. On rigole un peu du footballeur qui parvient difficilement à aligner trois mots lors d'une interview. Et en même temps, on ne demande pas à un joueur d'être un rêteur de génie pourvu qu'il soit adroit de ses pieds. Peu importe la tête, du moment que l'on ait des jambes. Finalement, tout se passe comme si la question de l'intelligence d'un sportif était volontairement passée sous silence. Est-ce une manière pour vous, Guillaume Martin, aussi de dire... non seulement qu'on peut être sportif, athlète de haut niveau, en l'occurrence cycliste professionnel, être classé 12e, c'est ça, au classement du Tour de France en 2019, et réfléchir quand même, et faire la peau à une idée reçue du sportif qui serait un peu stupide, dites-vous, et donc par le même biais de cet imbécile heureux dont vous parliez juste avant.
Oui, sans doute, parce que justement, moi, il y a beaucoup de journalistes qui, quand j'ai fait mon premier Tour de France, sont venus vers moi et ont trouvé ça très original que un cycliste ait pu faire des études de philosophie. Évidemment que c'est original, on n'est pas beaucoup dans ce cas-là, même si je suis pas le seul. Mais c'est original parce que déjà, il y a pas beaucoup de gens qui font des études de philosophie. Et en fait, ce qui m'étonne par rapport à ça, c'est sans doute le présupposé qu'il y a derrière, que les sportifs ne pourraient pas être intelligents, ne pourraient pas faire des études, et effectivement qu'ils seraient juste des sortes de machines sur des machines, simplement bonnes à pédaler. Et moi, c'est pas là non plus ce que je vois au quotidien, et donc j'ai envie de réhabiliter en quelque sorte l'intelligence de mes collègues et surtout dire que il y a plusieurs types d'intelligence, que c'est pas moi c'est une intelligence qui j'ai toujours été bon à l'école, c'est une intelligence qui peut s'exprimer par des livres. Je suis pas le seul à pouvoir écrire des livres dans le peloton, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi intelligents que moi mais qui expriment leur intelligence de manière autre, sociale. C'est un il y avait un scientifique dans les années 80 qui a Howard Gardner, qui a classifié 10 types d'intelligence, intelligence logico-mathématique, spatiale, etc. Voilà, il y a une intelligence spatiale, je pense, quand on voit un joueur de football, par exemple, sur un terrain qui, en un instant, est capable d'analyser un nombre énorme d'informations et qui voit un espace et qui trouve cet espace et en un quart de seconde fait la passe décisive qui va permettre un but, c'est aussi une forme d'intelligence. Sauf que peut-être que dans notre société, c'est pas l'intelligence qui est la plus valorisée, la plus mise en avant. En tout cas, dans le système scolaire, j'ai pas l'impression. Et donc c'est ça que je trouve pas tout à fait normal et que je peux essayer de lutter contre ça au travers de ces livres, puisque la parole m'est donnée pour ça.
Mais du coup, on vous colle les étiquettes du cycliste intello, du vélosophe. On parle beaucoup de vous en tant que vélosophe, ceux qui font du vélo, qui est philosophe. Et ça vous pèse?
Ça a pu me peser, effectivement, lors de mon premier Tour de France, parce que là, j'ai été pris un peu dans ce tourbillon médiatique. J'étais plus jeune que maintenant et je découvrais tout ça. Et surtout, j'avais l'impression qu'on ne parlait plus du tout de moi en tant que simplement cycliste. Et j'avais envie quand je faisais du vélo, qu'on s'intéresse à moi pour mes performances sportives. Et puis maintenant, ça s'est calmé quand même. J'ai compris aussi comment fonctionnait le jeu médiatique. J'ai accepté. Mes performances ont fait que si on a parlé plus de moi à nouveau, simplement pour mes performances. Mmh. Et puis le temps aidant aussi. Les interviews simplement centrées sur cette étiquette du cycliste intello se sont espacées.
Est-ce que vous pensez que les philosophes ont un rôle à jouer, un rôle politique à jouer dans la cité?
Je suis pas certain. C'est pas là justement la manière dont je conçois la philosophie. Quand je disais tout à l'heure que j'essaye de réhabiliter l'intelligence de mes collègues sportifs ou l'intelligence du travailleur manuel par rapport au travailleur intellectuel, j'ai pas l'impression de faire acte de philosophie quand j'entends des philosophes qui des gens qui se disent philosophes qui vont sur des plateaux télé pour discuter de sujets de société ou de sujets politiques, c'est louable et c'est sans doute important dans l'économie générale de notre société, mais j'ai pas l'impression que c'est acte de philosophie non plus. C'est peut-être de la politique, c'est autre chose en tout cas. Non, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, la philosophie est plus profonde, première et a trait à des questions qui se discutent pas forcément sur des plateaux télé et difficilement déjà sur un plateau d'une émission de radio, puisque j'ai eu du mal à en parler tout à l'heure.
Merci beaucoup en tout cas Guillaume Martin d'être venu parler à ce micro.
Merci à vous.
Ce matin on peut lire de vous Socrate à vélo, le Tour de France des philosophes aux éditions Grasset, ainsi que Platon vs Platoche aux éditions L'Harmattan.
Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi, une belle fille au frais minois, la bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur, la bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour? Tour de France, non, mais j'ai fait des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit? Des tours de vélo, pardi. Vous êtes un blagueur? Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, ça fait rien. Bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui, j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour, et qui qu'elle me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Ou pas le raisonnement? Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, ça fait rien. Bon. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, la bicyclette, bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu, assez bicyclette, bicyclette, mon réglage, faut pas rien le dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
C'est vendredi, et vendredi, c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie.
Quoi de mieux en cette période où on fait le bilan, où on prend de bonnes résolutions, que de revenir sur une expression tant et tant employée, une injonction de développement personnel qui nous plonge au cœur de nos désirs, un appel à s'accomplir, qu'on agrémente volontiers de Spinoza ou de Freud, ou dans un tout autre genre de Jean-Jacques Goldman.
J'irai au bout de mes rêves.
Aller au bout de ses rêves, on l'entend tellement cette expression qu'à force on ne se pose même plus la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller au bout de ses rêves? Certains parlent de réaliser ses rêves, d'autres ajoutent qu'il s'agit de rêves d'enfant, pour être plus précis. Au final, c'est toujours la même chose, toute une littérature promet de nous aider à aller jusqu'au bout pour réaliser nos rêves d'enfant. Mais pourquoi vouloir faire ça? Pourquoi ce projet est-il séduisant, désirable? Pourquoi nous rassure-t-il ou nous enchante-t-il? C'est une question que je me suis souvent posée. Que veulent dire les personnes qui promeuvent pour eux ou pour les autres un tel projet de réaliser ses rêves? Alors c'est vrai, cette phrase « va au bout de tes rêves » sonne comme une promesse, comme si elle contenait la clé d'un bonheur assuré, authentique. Mais pourquoi? Pourquoi retrouver en nous des rêves enfouis, les identifier, les ériger en but et les atteindre par tous les moyens, psychiques ou matériels, serait-il une promesse de bonheur? Alors c'est vrai qu'on y trouve dans cette phrase le présupposé suivant « si nous allons mal, c'est parce que nous aurions perdu de vue ces rêves et par là même une partie de nous-mêmes, et si nous voulons aller mieux, il faudrait tout simplement simplement tenter de les réaliser. Mais pourquoi le bonheur serait-il contenu là, dans ses rêves, dans des rêves d'ailleurs, et pourquoi le rêve serait-il vraiment, plus qu'autre chose, le lieu de notre moi authentique ?
Est-ce qu'on peut vous demander si vous êtes arrivé à vous réaliser ?
Évidemment non.
Pourquoi ?
Pas du tout. Peut-être parce que j'avais trop de rêves au démarrage.
Oui.
Pas au démarrage de cette carrière de chanteur, je parle pas de ça, je parle de ma vie. J'ai beaucoup de rêves, moi. J'aurais bien aimé être Christophe Colomb aussi.
Ouais.
J'aurais bien aimé écrire comme Mauriac, parce que Mauriac a écrit, mais écrire comme lui.
Ouais.
Et puis, des tas de choses, enfin. Ouais. Tout dépend du rêve qu'on a au départ, je crois, pour se réaliser. Ce qui compte, c'est d'aller, à mon avis, au bout de ses rêves.
C'est un cliché, une évidence, la réalisation totale, complète, ultime de soi, résiderait dans celle de nos rêves. Vous savez, ce qu'on avait quand on était enfant, le rêve de devenir astronaute, pompier, d'être écrivain, comme on vient de l'entendre avec Jacques Brel, d'être vétérinaire, d'être célèbre ou d'avoir beaucoup d'argent. Il y aurait là l'essence de ce que nous sommes au fond, une essence désormais inatteignable ou perdue d'un moi idéalisé. Réaliser ses rêves, ce serait donc accomplir la chose qui nous semble la plus importante, qui nous caractérise le mieux, ce serait atteindre la meilleure version de nous-mêmes, la plus adéquate, la plus authentique, la plus fidèle. Ce serait en fait toucher son propre idéal. Mais au-delà de cet égotrip, de cette volonté de puissance, on est quand même en droit de se demander, l'identification entre soi et ses rêves est-elle si claire ? Nos rêves sont-ils si authentiques, si purs ? Jusqu'où sont-ils reconstruits, réinterprétés ? Cette idée de réaliser ses rêves recouvre ainsi, selon moi, non seulement l'idée bancale que le rêve contient notre moi réel, vierge de la corruption du monde extérieur, mais aussi celle, tout aussi bancale d'ailleurs, que le rêve est vrai, qu'il touche juste, qu'il a raison. C'est comme si en misant sur le rêve, on idéalisait déjà le rêve en tant que tel, comme s'il était de fait meilleur que la réalité, dans le vrai, quand la réalité, elle, serait trompeuse, viciée, fausse. Mais si les rêves sont meilleurs que le réel, pourquoi donc vouloir les réaliser ?
Vous êtes nombreux à avoir des rêves. Mais vous êtes très peu à faire le premier pas pour les réaliser. Vous avez des rêves au fond de vous, des choses que vous souhaitez réaliser. Mais pour la plupart, vous vous en croyez incapable. Tous ces rêves vous sont donnés pour qu'ils puissent être un jour réalisés, pour que vous puissiez les réaliser.
Réaliser ses rêves, tout le paradoxe est là, dans cette phrase. Car les réaliser, c'est littéralement les rendre réels et donc les faire tomber du côté de cette réalité dont on ne voulait plus. Cette réalité que l'on croit fausse, corrompue, que l'on tient pour responsable de nous avoir détournés de nos rêves. Mais il y a quelque chose d'encore plus paradoxal, qui m'étonne encore plus dans cette injonction à aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est qu'on est persuadé qu'on pourrait les connaître, les identifier, les désosser en un plan d'action, les résumer en un but. On veut les rendre réels et faire un trait sur ce qui, précisément, pourrait rester de l'ordre de l'idéal, tel un horizon, ou de l'ordre de l'imaginaire, tel un refuge qui nous repose ou nous évade. Quelle tristesse donc de vouloir réaliser ses rêves, car qu'en reste-t-il quand ils deviennent des objectifs ?
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Manon Delasselle, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette émission pour vous. Marie-Claire Mabadi qui était la prise de son aujourd'hui, toujours pour vous. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine autour de la grève. La grève dans Germinal d'Émile Zola, la grève dans l'Antiquité chez Aristophane, la grève qui est le titre d'un roman de la philosophe et romancière Ayn Rand, et la grève... Un point de désaccord entre Marx et Proudhon, c'est le programme de la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger et podcaster ce numéro de Profession Philosophe en compagnie de Guillaume Martin, le philosophe cycliste. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on sera ravis de répondre à vos commentaires. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.